Bonsoir. Le commandant de la 3e zone de défense des FRDC s'est dit satisfait des résultats des opérations militaires de l'armée contre les rebelles ougandais de l'ADF et rwandais des FDLR dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Pour le général-major Léon Mouchalet, qui a fait cette déclaration la semaine dernière, la situation sécuritaire s'est améliorée dans les territoires de Beni suite à la traque des ADF, mais également la neutralisation des centaines des FDLR. Quelle lecture faire de cette déclaration? Nous en parlons avec Julien Paloukou, il est gouverneur de la province du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur le gouverneur Julien Paloukou.
Oui, bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi et à toute la population du Nord Kivu.
Professeur Arsène Mouaka, il est député national de l'opposition et cadre du parti politique DSFN. Il est élu de Beniville. Bonsoir, professeur Arsène Mouaka.
Bonsoir, Guy Maté.
Et Jason Stones, il est directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York et ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC. Bonsoir, Jason Stones.
Oui, bonsoir, Guy, bonsoir tout le monde.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le commandant de la 3e zone de défense des FRDC s'est dit satisfait des résultats des opérations militaires de l'armée contre les rebelles ougandais de l'ADF et rwandais de FDLR dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Le général-major Léon Mouchalet l'a déclaré la semaine dernière à Beniville où il a débuté avec une tournée d'inspection des secteurs opérationnels de la 3e zone de défense des FRDC. Selon lui, pour l'instant, la situation sécuritaire s'est améliorée dans les territoires de Beni suite à la traque de l'ADF, mais également des centaines de FDLR ont été neutralisés dans les opérations de désarmement de ces rebelles rwandais dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Écoutons le général-major Léon Mouchalet au micro de Martial Pakimoukeba.
J'estime à mon sens que la traque contre les groupes armés avance très bien pour l'ADF dans le territoire de Beni. Vous allez voir qu'il y a quand même un changement. C'est par le travail qui est en train d'être fait qui a permis que la situation s'améliore. Il y a des villages qui étaient vides de population, mais qui sont remplis aujourd'hui. Et à l'époque, les gens n'allaient pas au champ. Aujourd'hui, ils vont au champ. Et eux-mêmes, les ADF, vous sentez, leurs apparitions ne sont pas comme par le passé. C'est déjà un acquis. Mais il ne faut pas croiser les bras et dire que c'est fini. Il y a encore un chemin à parcourir. Il faut arriver à l'éradication du phénomène. Tout le monde sait que sur le plan international, on avait dénombré les FDLR à l'époque à 1200, même s'ils ont continué à recruter à gauche à droite, mais jusque le 30 mars dernier, nous avons neutralisé 1129. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà. Et aujourd'hui, ils sont en errance, dans la nature. Mais nous sommes derrière eux, nous sommes en train de les traquer.
Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu, vous confirmez le bilan dressé par les commandants de la 3e zone de défense des FRDC?
Oui, je le confirme bien. C'est pourquoi je commence par saluer le professeur Mouaka et M. Jason. Je pense que le commandant zone de défense a été même minimaliste lorsqu'il a parlé des statistiques, parce que pour nous, lorsqu'on fait le passage en revue de la situation comparée à celle de 2014-2015, nous pouvons affirmer que les données sont très très positives sur le terrain. La peur change de camp, parce que comme vous le savez, le Nord Kivu a des opérations. Il y a l'opération Sokola 1, qui est basé particulièrement à Beni, où allié place des bilans qui étaient destinés à nos populations au compter d'une moyenne de 2 morts par jour, depuis seulement le mois de janvier jusqu'en avril 2000.
Allô, monsieur le gouverneur? Voilà, je crois qu'on l'a perdu. Il y a un problème avec son téléphone. Professeur Arsène Mouaka, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DSFN. Vous êtes élu de Beniville. Comment réagissez-vous à ces bilans dressés par le commandant de la 3e zone de défense des FRDC lorsqu'il affirme que la situation sécuritaire s'est améliorée dans les territoires de Beni suite à la traque des ADF?
Merci beaucoup, Guy Maté. Je voudrais d'abord garder une mémoire pieuse à l'endroit des victimes de ces violences, notamment les victimes civiles et les victimes militaires, et profiter de l'occasion pour rendre hommage à notre armée qui fait un travail formidable jour et nuit et qui se bat et qui s'efforce de s'acquitter de sa noble mission dans des difficultés qui sont visibles. Je voudrais dire qu'il y a une accalmie relative. Et je ne serai pas très affirmatif puisque j'ai quand même été tout ce temps au Nord Kivu. Je suis resté assez longuement et il est clair qu'il y a peut-être relativement autour d'un mois qu'on n'enregistre pas un égorgé.
Il y a une accalmie relative alors que le gouverneur vient de dire que le général Mouchale a été minimaliste.
Oui, chacun a son appréciation, mais moi je suis plutôt prudent. Parce que je sais que le plus souvent, quand on veut relancer les opérations, comme ça a été le cas, et ça a été dit il y a un mois, qu'il y a une collaboration entre la MONUSCO et la FRDC qui va se relancer et que l'on va relancer les opérations dans l'espace de traquer les EDF. Bon, je crois que c'est habituel, comme au début aussi des opérations, 3 mois avant, on avait prévenu les EDF qu'ils seraient attaqués. On avait observé une accalmie relative, et ce qui fait qu'ils sont sortis de cette accalmie avec une nouvelle tactique, de nouvelles manières d'attaquer, puisque avant c'était des kidnappings, et ils en sont sortis avec des égorgements, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi moi j'ai suivi qu'il y a un accord que la MONUSCO a signé avec le gouvernement. J'ai suivi aussi, j'étais sur le terrain, j'ai suivi des tirs à l'arme lourde et autres. Je constate qu'à l'issue de ces deux événements, peut-être des opérations, puisque moi je n'ai pas vu du moins les opérations, du moins dans les environs de la ville, mais généralement quand il y a des opérations, on sait voir du côté de Beni. Et donc je constate qu'il y a une accalmie relative. Et moi je suis prudent.
Et vous savez où se déroulent les opérations?
Mais généralement, c'est dans les zones de parc national de Virunga et pratiquement dans la partie ouest de la ville d'Oicha et même dans les environs de la ville de Beni. On sait attendre quand il y a des opérations, on sait voir même le feu. Moi, j'ai vu le feu à Oicha, des armes lourdes et autres, c'est visible. Et donc, ça ne se cache pas. Nous saluons ce que l'armée a fait. Mais nous sommes prudents et nous demandons à tout le monde, comme le général lui-même l'a dit, il faut être sérieusement prudent avec ces événements et nous souhaitons que ça se termine comme il l'a dit.
Professeur Moka, du point de vue fréquence des massacres, le général Léon Mouchale n'a-t-il pas raison? On sait qu'il y a quelques mois, c'est toutes les semaines qu'on déplorait des tueries, mais depuis le début de ces mois d'avril, on n'a enregistré aucune victime.
Oui, pour ce qui est des égorgements, mais non pour ce qui est du banditisme qui refait surface dans les agglomérations, dans les villes. C'est des vols à main armée. Des hommes armés et en uniforme non autrement identifiés. Donc, c'est la recrudescence du grand banditisme, c'est le kidnapping dans des champs de la partie sud de la province où l'armée a fait du travail, dans la partie de Miriki, l'armée nationale a traqué les FDLR et comme le général l'a reconnu, ils ne sont pas totalement défaits, ils sont en errance dans le brousse et nous demandons à l'armée de continuer le travail parce que généralement le mal, c'est que quand on disperse, on ne poursuit pas l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Généralement, quand on disperse, on s'arrête, on s'assoit jusqu'à ce que l'ennemi va encore attaquer. Je ne suis pas militaire, mais je parle de la sécurité de la population. Les gens sont dérangés dans le sud de l'Ubero. C'est des enlèvements, et même dans le parc national de Virunga, entre Rutshuru et l'Ubero, c'est des enlèvements, des kidnappings monnayés, et ainsi de suite. La même chose à Beni, même dans des zones qui ne connaissaient pas des kidnappings, comme à Lungu, sur l'axe Kassindi et ainsi de suite. Donc c'est un phénomène déplorable, c'est-à-dire au même moment que les égorgements cessent à terme d'opération militaire, je pense qu'il y a un côté police qui doit être fait. Je pense que le gouverneur qui a la police à sa disposition et qui est avec nous dans cette émission, il aura justement à mieux expliquer cela.
Et le commandant a aussi annoncé le retour des populations dans leur village et les populations qui retournent dans leur champ. Et n'est-ce pas un des faits palpables, n'est-ce pas, qui atteste l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie du pays?
Il y a des milliers et des milliers de déplacés. Et s'il y a quelques personnes qui, à leur risque, retournent dans les champs. C'est pour ce que, justement, le gouvernement n'a pas disponibilisé d'aide sociale. Ces gens ne sont assistés à rien. Ils ne vivent que du champ. Et donc, au lieu de mourir, les gens préfèrent retourner dans des endroits que l'armée n'a pas encore autorisé, puisque l'armée n'a pas encore autorisé que les gens retournent. Si l'armée estime que c'est ça le critère, qu'ils disent officiellement à la population de retourner dans ces zones. Et donc, je pense qu'il y a quelques personnes qui, au lieu de mourir de faim, préfèrent retourner tout proche des champs et de la vie plutôt que de dormir à la belle étoile, puisqu'elle n'est pas assistée par le gouvernement. Et donc, si c'est cela le critère, nous souhaiterions que le même général qui a parlé, qu'il autorise à la population de retourner dans des villages qui sont devenus des brousses. Il faut qu'on le dise, puisqu'on ne le dit pas assez. Et on ne le rappelle pas beaucoup à la nation, puisque la nation est en guerre, justement, merci, dans cette région.
Merci. La réalisation me signale que le gouverneur Jimmy Paluku est en ligne. Monsieur le gouverneur, vous êtes là?
Oui, je suis en ligne. Vous savez que nous sommes dans des zones à la fois où les réseaux n'est toujours pas bon.
Oui, vous étiez en train de parler, n'est-ce pas, de ce bilan dressé par le commandant, le général Mouchalé, et vous disiez qu'il a été minimaliste.
Oui, pour moi, je pense qu'il a été minimaliste parce que, comme tout le monde le sait, nous avons des opérations. Il y a au nord l'opération Sokola 1, au sud l'opération Sokola 2. Et lorsque nous voyons les bilans uniquement pour le premier trimestre de l'année 2016 au sujet des EDF, nous sommes à près de 17 EDF qui sont tués chaque mois, parce que nous sommes à 67 qui sont tués. Dans la partie sud, nous sommes à peu près à une moyenne de 25 FDLR tués, neutralisés chaque mois. Alors que hier, c'était les populations qui étaient contre en termes de autant de personnes tuées par mois. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Ce sont les criminels qui sont en train d'être tués. Et même parmi les armées, nous avons neutralisé pendant les premiers trimestres près de 101 éléments de groupes armés, les derniers d'ailleurs, qui viennent d'être tués ce soir. C'est un certain Tchouma Maliéné du côté de Niamilima, un grand criminel connu qui est tombé sous les frais de l'FRDC. Aujourd'hui, à Niamilima et environ, c'est la grande joie, c'est la liesse, parce que le grand criminel est tombé sous les frais de l'FRDC. Donc, je pense que les largement positif, pas seulement à terme humain, mais également à terme d'armement. Nous sommes, par exemple, au niveau de la partie nord, Béni et environ, autour de près de 20 armes AK-47 qui ont été récupérées. Vous vous rendez compte, 20 armes récupérées, ça fait autant de vies humaines qu'on est en train d'épargner. Du côté de Massi, Siruchuru, nous sommes à près de si je ne m'abuse, 123 armes qui sont récupérées des mains des groupes armés qui sont utilisés. Donc pour moi, je crois comparativement à 2014 et 2015, la situation est très, très positive, même si le professeur Mouak a dit qu'il faut être prudent, mais ça ne nous empêche quand même pas de dire à l'opinion ce que nos forces armées, avec la MONUSCO, avec tous les acteurs, sont en train de faire sur le terrain. Et là, je ne suis pas tout de suite d'accord que les gens rentrent dans leur village avant que nous ne nettoyions totalement les environs. Sinon, on serait en train de... ce qu'a évoqué tout à l'heure le professeur Mouak.
Oui, vous dites qu'il y a des cela quelques mois, ce sont les populations qui étaient souvent tuées. C'est chaque mois qu'on enregistrait des tueries dans les camps de la population. Mais cette fois-ci, ce sont les groupes armés, c'est les ADF et les FDLR qui sont tués chaque mois. Mais selon la société civile du Nord Kivu, lors d'une attaque des ADF à Kainama, et pendant la période de Pâques au mois de mars, une école, une église ainsi que certaines habitations ont été détruites. Il y a eu même des morts et récemment un convoi des FRDC est tombé dans une embuscade sur l'axe Tungudu. On a parlé même de 4 morts parmi les militaires. Est-ce qu'on peut dans ces conditions dire que la situation sécuritaire s'est améliorée effectivement?
Ou bien c'est amélioré parce que quand on voit la société civile commencer à citer l'église, les églises brûlées et les maisons sans donner les chiffres des populations qui sont tuées, en ne donnant que les chiffres montre que les militaires sont morts sur la ligne de front. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit que la situation a totalement changé. Quand on doit aujourd'hui compter le nombre de morts du côté de nos FARDC, c'est ce que nous regrettons. Parce qu'il n'est pas dit que ce ne sont que les FARDC qui doivent mourir. Et lorsqu'on dit qu'il y a une embuscade à Tungudu, etc., vous vous rendez compte que ce sont des cas qu'on commence à relever après 2 mois pour dire il y a un cas d'embuscade quelque part. Donc pour moi, cette appréciation-là devra être portée à la connaissance du public pour que cette immense société civile et tous les autres aient quand même le courage de dire clairement devant l'opinion, aussi nationale qu'internationale, que la situation est en train de changer et nous devons encourager nos forces armées, nous devons également encourager nos populations qui prêtent main forte à ces forces armées pour qu'ils en arrivent identifier l'ennemi. Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, si on est arrivé à mettre la main sur un certain tube mamalienne du côté de Nyerima, c'est avec la collaboration de la population et c'est cela que nous demandons. Nous demandons que nos populations continuent à avoir confiance en nos éléments des forces armées. Lorsque, par exemple, le professeur dit que maintenant il y a la recrudescence du banditisme dans les villes, moi j'ai dit tout simplement qu'il y avait toujours du banditisme dans les villes, mais cela n'était pas perceptible parce que les yeux étaient focalisés sur la ligne de front. Maintenant que sur la ligne de front ça cessé, les gens commencent à voir qu'en ville ça ne va pas. Et ça c'est un travail de police. Et la police nationale congolaise, avec les gens que nous avons à province, a déjà pris des dispositions pour que, autant que la sécurité revient dans les fins fonds, notamment aux opérations Sokola 1, Sokola 2, à Beni et dans les Massissi, autant dans la ville de Goma, de Butembo et de Beni, la police devra faire son travail pour que la population se sente sécurisée. Je suis allé à Rutshuru au mois de mars dernier, le 20 mars pratiquement. Depuis que j'ai quitté Rutshuru, parce que j'y étais presque une semaine, les mesures que nous avons arrêtées avec le commandement des opérations produisent aujourd'hui des effets et les voyageurs qui partent de Goma jusqu'à Butembo peuvent témoigner que quelques cas peuvent arriver, mais au moins on a réduit sensiblement ce qui s'est passé il y a quelques temps.
Monsieur le gouverneur, un des indicateurs objectifs et vérifiables de l'amélioration de la situation sécuritaire, c'est le degré du rétablissement de l'autorité de l'État. Beaucoup de groupements, notamment à Lubero et à Walikale, sont toujours occupés par ces groupes armés.
Oui, moi je veux dire que le processus de paix s'appelle processus parce qu'il ne se termine pas en un jour. Il ne faut pas qu'on nous demande d'éradiquer les groupes armés aujourd'hui et de restaurer toute l'autorité sur l'espace que nous avons au Nord Kivu, qui a l'équivalent, je l'ai dit souvent, du Rwanda et du Burundi réunis. Qu'on laisse les FARDC faire le travail dans le sud de Lubero. Nous y avons également été avec l'accompagnement du gouvernement central. Eh bien, aujourd'hui, on ne parle que de quelques cas signalés au nord de Walikale et à Buleusa, au sud de Lubero, dans une localité. Donc, globalement, nous pouvons dire que le travail de nos forces armées est appréciable et nous devons les encourager à aller de l'avant pour que l'image qui avait été ternie aux yeux de la population soit redorée, parce que les gens ont pensé que le passage du chef d'État en décembre dernier était un voyage inutile. Il a tenu deux grandes réunions de commandement à Beni et à Goma pour dire aux forces armées qui doivent redoubler de vigilance pour sécuriser les populations. Aujourd'hui, on sent que les résultats sont palpables et tout le monde peut témoigner. Il n'y a pas que moi comme gouverneur.
Merci Jason Stotz. Vous êtes directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York et ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC. Comment vous analysez la déclaration du commandant de la 3e zone de défense de FARDC?
Bon, je pense que tout d'abord, il faut saluer et féliciter les FARDC. Ce n'est pas un travail facile. Il y a des centaines de FARDC qui sont déjà morts dans les opérations Sokola 2 et Sokola 1. Donc, il ne faut pas minimiser cela. Et je pense qu'effectivement, comme il dit, depuis, je dirais, la fin de l'année passée, il y a une certaine accalmie qui est qu'on peut voir sur le terrain, surtout dans le territoire de Beni. C'est, je pense, le dernier massacre date de 28 février. Autour de Maïmoya, où il y a 16 personnes qui ont été tuées. C'est lamentable, mais c'est beaucoup moins en termes de fréquence que l'année passée. Et donc, certainement, il est quelque part vrai que il y a une sorte d'accalmie. Mais je dirais que, malheureusement, et nous avons sorti tout un rapport là-dessus il y a un mois, on n'a toujours pas percé les mystères autour des ADF. Il est vrai, nous avons mené plus de 6 mois de recherche sur le terrain. On a interrogé beaucoup d'acteurs, y inclus des rescapés. Et on a conclu que l'ADF, certainement, sont les premiers responsables des massacres. Mais l'ADF, tel qu'on perçu par la MONUSCO, souvent tel comme présenté par le gouvernement comme des étrangers, des djihadistes, n'est pas tout à fait vrai, parce que les ADF, ils ont tissé des relations très très étroites avec la société locale, avec la politique locale, et donc ce n'est pas seulement un problème militaire, les ADF. Les ADF, je pense, tout d'abord, c'est un problème politique, c'est un problème de renseignement. Il faut savoir connaître, reconnaître les réseaux d'influence dans lesquelles les élèves sont ancrés pour résoudre ce problème. Donc je dirais que oui, côté militaire, il y a un certain succès, mais il ne faut pas minimiser le côté politique.
Alors vous dites que...
Je dirais côté FDLR, parce qu'il a mentionné ces deux groupes armés, ADF et FDLR, là aussi il y a une certaine réussite parce que l'armée congolaise a pu dénicher, délocaliser les FDLR de leur QG, où ils étaient localisés pendant plusieurs années, autour de Bouléoussa, donc vraiment dans la triangle entre le territoire Rutshuru, Lubero et Walikale. Ça c'est vrai, mais je pense que là aussi il faut être prudent, comme le professeur Mwaka l'a dit, parce que la plupart, ou il y a une partie de ces opérations n'ont pas été faites par les FARDC, mais plutôt par les milices locales. Et là, je cite surtout les NDC Guidon, c'est une milice Maïmaï, et une autre milice locale qui s'appelle UPDI. Et là, il y a un grand danger, et ça c'est le troisième point que j'aimerais faire, qu'en résolvant avec la résolution d'un problème, on crée un autre, parce que effectivement, on fait beaucoup de pression sur les FDLR, mais les FARDC, ils passent parfois à travers les milices locales. Il n'y a qu'une Maïmaï comme l'IPDI et NDC. Et cela crée des problèmes au niveau local, comme ces milices sont des milices ethniques, et souvent ces milices se battent contre eux. On a vu une recrudescence des violences tribales ethniques dans cette contrainte, des grandes tensions entre les communautés Hutu et Mandé. Ce que le gouverneur Paluku connaît très bien parce qu'il s'est délocalisé pour aller là-bas sur le terrain pour résoudre ce problème. Mais justement, je pense que peut-être on a résolu un peu le problème ADF, ou on a fait du progrès contre le problème ADF et un peu contre l'FDLR, mais on n'a pas vraiment envie de créer, de devoir un autre problème émerger, celle de la violence ethnique. Et cela pose un grand problème, surtout en saison électorale où nous savons qu'il y a des politiciens qui vont miser sur ces tensions à leur propre bénéfice.
Monsieur Gison, vous venez de dire qu'on n'a pas encore percé le mystère autour des ADF. Vous dites que la perception que l'on a des ADF est une perception erronée. Cela veut dire que les FARDC ainsi que la MONUSCO sont en train de se battre avec un ennemi qu'elles ne connaissent pas.
Oui, quelque sorte. Je pense qu'il y a un travail plus grand de renseignement à faire. Nous avons fait un travail. Il y a des autres collègues de la MONUSCO, des Nations Unies, le groupe d'experts, par exemple, des Nations Unies, mais aussi des acteurs de la société civile qui ont tenu beaucoup de réunions, qui ont fait beaucoup de descentes sur le terrain. Et le résultat, je pense qu'il y a un consensus qui est en train de s'établir, c'est que l'ADF, c'est vraiment un problème social, politique, économique et pas seulement un problème militaire. Alors, qui exactement derrière l'ADF est difficile de savoir, mais nous avons demandé au FARDC, à la MONUSCO, de lancer une vraie enquête, une enquête compréhensive par rapport à cette problématique.
Dès lors que les bastions de ces ADF à Mwalika et dans la vallée de Semouliki ne sont toujours pas démantelés, peut-on dire que les populations sont à l'abri des menaces de ces groupes armés?
Bah, comme j'ai dit, le 28 février, il y a 16 civils qui ont été massacrés à, je pense, c'était la localité de Mtondi, autour de Maïmoya. Et donc, non, la réponse, mais c'est beaucoup mieux cette année que l'année passée. Et comme le général Mouchalé a dit, on constate quand même un certain retour. Le problème, comme j'ai dit, c'est que nous avons autour de 30 groupes armés dans le Nord Kivu. Alors, le général Mouchalé a cité deux groupes armés, peut-être les deux les plus importants, l'ADF et l'FDLR sont des groupes armés étrangers. Mais il y a presque une trentaine de groupes armés congolais, et donc même si on résout ce problème d'ADF, il y a tous ces autres milices, Maïma, etc., et là on voit assez peu de progrès.
Monsieur Jouzon, à Walikale, sur l'axe Pinga, il y a une coalition alliée au FDLR, la coalition Nyatura et Pareco. C'est vrai qu'on va se débarrasser des FDLR, mais ils vont continuer, n'est-ce pas, à commettre leurs forfaits à travers leurs alliés Nyatura et Pareco. Vous venez de dire qu'en résolvant un problème, on en crée un autre.
Oui, je vous remercie pour citer ce cas-là, parce que, bon, je ne dis bien sûr pas que c'est les FARDC qui ont nécessairement créé le problème, l'alliance entre les FDLR et Nyatura. Mais ce que vous dites est vrai. Il y a une alliance qui est en train de mettre entre les groupes armés, les miliciens Hutu-Congolais et les miliciens Hutu-Rwandais, donc FDLR, ensemble avec les Nyatura. ce qui pose problème, pas seulement parce que ça rend le travail plus difficile aux FARDC, mais ça pose un problème aussi parce que les Niatoura, ils sont souvent en conflit avec les autres miliciens ethniques, donc les SDLR, comme les ADF aussi dans le territoire de Béni, s'ancrent dans des dynamiques sociales, s'ancrent dans des conflits et tensions interethniques, et donc ça risque d'allumer le feu dans les conflits ethniques au Nord Kivu. Il y a des grands problèmes, des grands défis, je dirais, dans ce domaine-là. Il ne faut pas seulement critiquer les FARDC, mais je pense que quand même il faut miser pas seulement sur le côté militaire, mais aussi il faut amplifier les voies, les moyens politiques, sociaux pour résoudre ces problèmes.
Professeur Rachel Mwaka, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Butembo au Nord Kivu.
Je me dis à Butembo, provoque du Nord Kivu. Je salue la déclaration du général-major des troisième zone de défense et des FARDC. À mon humble avis, la déclaration du général-major est une autosatisfaction qui prouve combien de fois qu'il a eu du temps pour faire une simple inspection. Mais telle déclaration devra plutôt venir de la société civile et non du général qui est loin de la réalité. Chose grave, au moment que le général se félicite pour les opérations contre les ATFNALU, RLFDLR, au même moment, il y a les militaires rwandais et les Sud-Soudan sur la zone contrôlée par le général. Un exemple simple, si la sécurité s'est améliorée, il y a encore des escortes, des véhicules sur la route de Butembo Goma. Pourquoi?
Pour se rester Mwaka.
Oui, en fait, je pense que l'auditeur a à la fois raison et tort au même moment. Il a raison tout simplement puisque c'est le consommateur de la sécurité qui doit pouvoir évaluer sa situation. On aurait souhaité que ce soit la population qui s'exprime, mais je suis un des représentants de cette population. J'affirme qu'il y a une accalmie relative.
Et qu'est-ce que vous dites de la population qui sont là?
Oui, je dis qu'il y a une accalmie relative, mais je ne dis pas qu'il y a paix. La peur est toujours au ventre de la population, et comme l'auditeur venait de le dire, et c'est là où il a raison, il y a des endroits où la population, quand elle doit se déplacer, elle est escortée. Il y a des endroits où la population est inquiétée dans les champs, et le gouverneur venait de dire qu'il ne peut pas s'engager à dire aux gens « retournez dans vos champs », puisqu'il y a encore des opérations qui sont là. Maintenant, est-ce que les militaires peuvent évaluer leur action? Je ne pense pas que le général Mouchal ait tort de pouvoir évaluer ce qu'il a évalué. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils se mettent dans la culture des armées modernes qui fait que l'armée communique. L'armée communique partout au monde.
Mais on dit depuis toujours que l'armée, c'est la grande muette.
Oui, c'est la grande muette.
Elle ne communique pas assez.
C'est la grande muette dans la mise en action de l'armée. Mais pour tous ceux qui gravitent autour de la mise à condition de l'armée, tous ceux qui gravitent autour de la politique globale de notre défense, ça ne fait pas partie du secret d'État. Ça fait partie de nos problèmes sociaux. La sécurité fait partie des problèmes de la population. Et donc, on encouragerait nos militaires, par exemple dans une émission comme celle-ci, que le général soit là et qu'on discute avec lui. Il connaît la limite de ce qu'il peut dire et de ce qu'il ne peut pas dire. Et donc, c'est de ce côté-là que l'auditeur a raison pour dire qu'il serait bon que le militaire nous explique aussi quand il y a trop de morts, qu'il nous explique aussi. Et quand il n'y a pas de morts, qu'il nous explique. Donc, c'est dans cette dialectique-là que je voudrais bien répondre à notre auditeur.
Oui, professeur, par rapport au processus du rétablissement de l'autorité de l'État, comment vous jugez l'évolution de ces processus, notamment dans les territoires de Walikale, Lubero et Beni, parce qu'en fait, c'est un des critères, n'est-ce pas, un des critères pour évaluer la situation sécuritaire dans cette partie du pays?
Absolument. Je crois que les auditeurs qui nous suivent doivent comprendre qu'il y a une accalmie et qu'il y a par retour de la sécurité dans les zones opérationnelles qui sont couvertes par les opérations Sokola 1 et Sokola 2. Nous sommes toujours en opération militaire, mais on a passé un mois. Moi, je me rappelle pas que c'est seulement depuis février que les gens ne meurent pas. J'étais à Beni, à mars j'étais à Beni, il y a eu des morts, et donc je crois que Jason doit aussi actualiser ces informations. Mais je sais que depuis le mois d'avril, on n'a pas enregistré des morts. Et on n'a pas par égorgement.
Par rapport à au rétablissement de l'autorité et de l'État, est-ce que les chefs de groupement sont revenus, les administrateurs de territoire sont revenus, est-ce que la police elle est présente dans ces différents groupements?
Ce serait un secret de polichinelle que de refuser de dire. En tout cas, c'est clair que il y a des zones entières qui sont encore sous le contrôle des milices. Des zones entières, une multitude de milices. Et c'est là que je voulais dire, par rapport à ce que Jason a dit, relativiser un peu ce qu'il a dit, quand il parle de l'enracinement local des rébellions étrangères, pour dire attention, nous sommes ici dans une question de rébellions étrangères qui viennent s'installer dans un pays avec toute une histoire. Il y a toute une histoire dans l'installation de ZDF qu'on ne peut pas escamoter et retourner cette histoire seulement à la population. Je ne voudrais pas dire ici on est suivi par beaucoup de gens, mais je voudrais dire à Jason qu'il est chercheur et qu'il sait comment les ZDF ont été créés. Et ce n'est pas la population locale qui a créé les ZDF. Et donc, maintenant, l'accommodation des populations qui a longtemps cohabité avec des criminels, ou bien vous vous accommodez, ou bien vous ne vous accommodez pas. Mais ça ne peut pas être là le frein. Je pense que l'expérience a montré qu'à chaque fois qu'il y a eu des opérations sérieuses, comme il y en a eu au début des opérations Sokola 1, sous le commandement du feu général Bahouma paix à son âme, il a été clair que les gens ont été sont retournés rapidement dans leur sécurité et les gens sont allés plus loin dans les champs, dans les vieux champs qu'ils n'avaient pas fréquentés depuis une dizaine d'années. Et dès la mort du général, eh bien, les choses se sont gâtées. Donc, on doit faire attention dans cette ethnicisation de l'insécurité qui ne doit pas être le fait des victimes, en fait, qui deviennent des bourreaux, mais ça doit être le fait d'un gouvernement qui se retrouve là des difficultés de pouvoir assurer la sécurité de sa population. Maintenant, tout le reste dans l'éradication complète, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut travailler sur d'autres dimensions, mais pour l'instant, je suis convaincu que les opérations militaires sont largement suffisantes.
Monsieur le gouverneur Julien Paloukou, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Goma, au Nord Kivu.
Pikiri Chomba depuis Goma dans la province du Nord Kivu. À mon avis, ce n'est pas pour la première fois que l'armée fait une telle déclaration. Il y a quelques mois, on nous avait dit que la capacité de nuisance des adeptes avait été réduite. Mais après, nous avons vu le contraire. Je pense que les autorités de l'armée chargées des opérations devraient éviter de chanter la victoire avant la fin du combat. Il serait mieux de s'abstenir des déclarations en se concentrant sur de nouvelles stratégies plus dissuasives, d'autant plus que les ennemis de la paix ont changé de tactique en appliquant la guérilla et le terrorisme. L'armée devait poursuivre sans relâche la guerre au lieu de faire une guerre médiatique qui n'intimide en rien les ennemis de la paix dans notre pays.
J'ajoute cette réaction d'Alexis Loukélois qui dit « C'est un mensonge pur et simple, car à mon avis, c'est à nous, population habitant ces coins, de témoigner s'il y a réellement amélioration sécuritaire ou pas à travers les médias et non lui. » Monsieur le gouverneur Paloukou.
Non, merci. Il y a des gens qui sont, je crois, en extase. Mais je voudrais un peu d'abord réagir à vos propos, M. Guy. Quand vous avez dit qu'en résolvant un problème, on crée d'autres, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation.
Ça ne vient pas de moi, ça vient de Jason.
En résolvant un problème, on s'aperçoit qu'il y a un autre. C'est ça peut-être l'affirmation qui est valable. Parce que quand on a fini avec les CNDP, les M23, on est en voie d'en finir avec les EDF et les FDLR. Maintenant, les gens s'aperçoivent qu'il y a d'autres petits groupes qui restent. C'est ça la meilleure compréhension. La deuxième compréhension, c'est que nous escortons les véhicules dans les Rutshuru. Les gens s'inquiètent alors qu'ils nous l'ont demandé. Aujourd'hui, on est en train de faire cela en permettant aux FDC de faire des opérations de profondeur. C'est la raison pour laquelle nous escortons les véhicules de Goma jusqu'à Butembo. Troisième chose, je voudrais préciser que lorsque je viens dans une émission comme celle-ci, je ne m'improvise pas. Donc on ne dit pas qu'il faut qu'il y ait le représentant de l'armée pour qu'il parle. Je suis le gouverneur légalement élu de cette province. Je suis le représentant du chef de l'État, le commandant suprême. Et donc quand je parle des questions militaires, je ne suis pas un improvisé dans une émission. Maintenant, répondant à la question des auditeurs, lorsqu'ils disent non, bon, on fait aussi des déclarations. Il y a quelques temps, on a dit que la capacité de nuisance était réduite. Mais c'est tout à fait normal. Quand on ne communique pas, ce sont les mêmes populations qui disent qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Quand on communique, ils disent qu'on fait trop de propagande. C'est quand même contradictoire. Je voudrais que nos auditeurs aient leurs pieds sur terre. L'armée est en train de faire son travail et nous communiquons sur les résultats qui sont sur le terrain. Je ne vois pas quelqu'un de béni aujourd'hui en train de poser la question comme quelqu'un qui se trouve à Goma. Quelqu'un de béni, quelqu'un de Kainama, quelqu'un de Ringeti aujourd'hui, il serait d'accord avec moi que de toutes les manières, en début de cette année 2016, il y a beaucoup d'améliorations, mais nous ne disons pas que nous ne devons pas avoir un sentiment d'autosatisfaction. Nous devons redoubler d'efforts pour que ce qui est acquis aujourd'hui soit pérennisé dans le temps, pour qu'on ne revienne pas dans la situation antérieure. Donc il n'y a pas de mensonge que nous faisons devant la radio Okapi ici, parce que la radio Okapi est suivie à travers le monde. Mais on sent tout simplement qu'il y a des nostalgiques de morts et de guerres. C'est comme s'il y a des gens qui veulent qu'il y ait des morts, qu'il y ait des guerres, pour qu'ils trouvent des mots à dire à l'opinion pour tirer sur le pouvoir. Pas le pouvoir veut se tirer d'affaire avec ces stratégies qui sont arrêtées sur le terrain. Il y a certains qui sont malades. Et ça, c'est très regrettable pour nos Congolais.
Oui, monsieur le gouverneur, vous avez suivi monsieur Jason Stones qui a affirmé qu'on n'a pas encore percé les mystères autour des ADF. Cela veut dire que le gouvernement congolais est en train de se battre avec un ennemi qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas.
Oui, on n'a pas encore percé, mais il y a des résultats sur le terrain. Je peux vous informer que il y a deux jours, nous avons arrêté une dame qui est la femme de la troisième personnalité des responsables des EDF, qui est déjà entre nos mains. On est en train de remonter la filière pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a des choses, comme le professeur l'a dit, dans les limites desquelles nous ne pouvons pas dépasser certaines déclarations. Je crois qu'il faut qu'on laisse à l'armée le temps de faire son travail. Il y a beaucoup de capturés, j'ai dit, au niveau de Beni. Nous avons près de 67 EDF neutralisés, tirs, les tués, les capturés, les rendus. On est en train de remonter toute la filière pour qu'on comprenne la question. Il faut donc qu'on laisse à l'armée le temps de faire son travail. Les résultats auxquels on en arrive aujourd'hui sont les fruits de tous ces éléments qu'on est en train d'exploiter pour connaître exactement la localisation des zones retranchées de ces EDF Nalu. Et peut-être demain, la population sera contente d'apprendre qu'on en a fini avec cette nébuleuse, avec ces mystères, comme l'a dit Jason. Donc, l'essentiel pour l'armée, c'est d'avoir des résultats palpables que l'on va apprécier demain.
Monsieur Jason, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, souvenez-vous.
Nikiza Kulimu Chevariste depuis la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Il est très tôt, à mon humble avis, d'être satisfait de l'amélioration sécuritaire à l'Est, surtout lorsqu'il est vérifiable que la dite CRAC a plus réussi à enfoncer ses bourreaux au fin fond de nos forêts, au lieu de les chasser en dehors du pays. Tant que la force de nuisance des ADF et des AF de l'air ne sera pas complètement anéantie, qu'ils resteront armés sur le sol congolais, nos responsables militaires devront se réserver d'une telle satisfaction, car cette accalmie relative peut être due au repli devenu habituel à ces forces du mal pour pouvoir se réorganiser.
Oui, M. Jason Stotz.
Oui, merci d'abord. J'aimerais d'abord répondre au professeur Mwaka et au gouverneur Paluku. Peut-être ils m'ont un peu mal compris. Quand j'ai dit que l'ADF et les ZF de l'air sont ancrés profondément dans la société locale, je ne dis pas que c'est la société locale qui les assure un soutien. Je dis plutôt qu'il y a des politiciens, qu'il y a des hommes d'affaires, qu'il y a des élites qui sont impliquées. Par exemple, comme nous savons tous très bien, l'ADF, ils sont sur le sol congolais depuis 1995. Les Nalu, qui étaient alliés aux ADF, sont sur le sol congolais depuis les années 80 plutôt. Et si les deux groupes sont arrivés dans le territoire de Béni, je pense que le professeur Moiré le sait très bien, c'était sous invitation et avec l'implication de certaines autorités locales à l'époque, sous l'autorité du maréchal Mobutu. C'était le premier exemple, et au début je pense qu'il y a toujours une certaine complicité entre certaines personnalités locales et nationales et ce groupe armé. Deuxièmement, quand nous parlons du groupe FDLR et nous voyons les actions des ministres MDC Guidon et UPDI sur le terrain dans le territoire de Lubero, ces deux groupes ont bénéficié à un certain moment d'un soutien des FARDC. Et les miliciens et Hutu et Nande qui sont sur le terrain aujourd'hui, ils ont des liens avec des politiciens à Kinshasa et comme à Goma. Je pense que le gouvernement Kwame Nkrumah a fait un grand travail de sensibilisation sur le terrain, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Dans l'histoire du Congo, ces groupes ont malheureusement souvent profité d'un ancrage au niveau politique. C'est de cela que je suis en train de parler. Alors, par rapport à la question de votre auditeur, je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, je pense que c'est la raison pour laquelle je reste encore prudent par rapport à la situation. Je pense que malheureusement, les opérations militaires ils ont eu un impact, mais ils n'ont pas su démanteler la chaîne de commandement ni des FDLR, ni des ADF. Et c'est pour cela qu'il est assez facile pour eux de se réorganiser en brousse et de se reconstituer et réattaquer. Donc on n'a pas vu, par exemple, la reddition des grands commandants ADF ni FDLR. On n'a pas pu tuer les grands commandants FDLR et ADF qui sont encore sur place.
Professeur Alfred Moka, que faut-il pour débarrasser définitivement le Nord et le Sud Kivu des groupes armés? Est-ce que réactiver les différents programmes DDR pourrait contribuer à la pacification de cette partie du pays?
Merci beaucoup. Je voudrais placer juste un court mot pour dire à Jason que je pense que les origines des EDF doivent être bien maîtrisées puisqu'avant les EDF, il y a non seulement les Rise of Freedom Movement, il y a une multitude d'autres petits mouvements rebelles réactivés par l'Ouganda et des rebelles congolais, même certains officiels congolais qui se retrouvaient dans ces mouvements. Dire que c'est sur invitation des autorités, des politiciens locaux, c'est archi-faux. C'est pas vrai. Et je pense que ce débat-là, nous pouvons le continuer dans le milieu académique, puisque l'histoire existe. Mais je voudrais revenir sur la question pour dire que...
Réactiver les différents programmes DDR, est-ce que ça peut constituer une solution?
Les DDR ne peut pas être réactivé tant qu'on n'a pas des armées, ces fameux hommes armés. Il faut des opérations militaires sérieuses. Que le gouvernement Matata, qui s'occupe sérieusement des finances, puisse s'occuper sérieusement de la sécurité et que les mêmes moyens qui ont été consacrés à Rutshuru lors du M23 soient consacrés aux deux opérations qui sont à cours, notamment dans le sud de Lubero, Rutshuru, Masisi et autres, c'est-à-dire Sokola 2 et de même que Sokola 1. Et ces choses sont visibles, ce ne sont pas des choses à chercher. Et donc, on voudrait encourager le gouvernement à prendre au sérieux ces opérations et ce n'est qu'après qu'on pourra parler des DRR quand on aura peut-être des armées, un certain nombre de combattants. C'est vrai qu'il y a des petits nombres qui sont désarmés, mais nous demandons constamment que les opérations soient intensifiées. Ce n'est pas quand on disperse les rebelles et autres FDLR et EDF que c'est terminé.
Et en conclusion?
En conclusion, je voudrais dire qu'il y a nécessité, un, de pouvoir réactiver les opérations. De deux, la justice, on ne fera pas la paix au Nord qui vous sa justice. Il doit y avoir justice. Quand on dit qu'il y a des gens qui sont attrapés comme EDF ou FDLR, ils doivent être jugés. Nous devons savoir quelles sanctions leur accorder. Il doit y avoir des enquêtes nationales et internationales. Le gouvernement doit s'activer pour que cela soit possible. Et absolument, le gouvernement doit s'acquitter de ses obligations en mettant en condition notre armée pour qu'elle puisse bien se défendre comme elle s'était défendue dans une courte durée. Merci. À Rutshuru.
Jason Nosos, que faut-il pour se débarrasser définitivement les Nord et le Sud Kivu des groupes armés? Est-ce que vous pensez qu'on peut se débarrasser de ces groupes si dans la stratégie on n'implique pas les pays d'origine de ces groupes armés étrangers? Ça sera sous votre conclusion.
Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, professeur. Moi, quand je pense effectivement que c'est un débat qu'on va continuer ailleurs, pas ici. Je pense pour les ADF et FDLR sont des groupes étrangers, effectivement. Malheureusement, je pense qu'il est très peu probable qu'on puisse avoir un dialogue entre le Rwanda et les FDLR. Je pense que pour l'FDLR au Rwanda, c'est une question existentielle qu'ils ne pourront jamais accepter. Donc, je doute malheureusement, parce que je prône surtout toujours les solutions politiques, mais il sera très très difficile de le faire. Je pense que par rapport aux FDLR, il y a plusieurs pistes militaires et politiques. On pense par exemple à l'exil dans un tiers pays de certains leaders qu'il faut poursuivre. Je pense que le groupe armé congolais, il faut surtout mettre accent sur un nouveau programme DDR, comme vous l'avez dit, qui est moribond, plus ou moins, qui n'existe presque pas.
Merci, gouverneur Julien Paloukou. Votre conclusion, quelle est la solution par rapport à cette question?
Oui, ma conclusion, c'est que je donne un conseil d'abord à nos populations,
qui commencent à croire que c'est au niveau de la population qu'on a défini quand est-ce qu'on doit faire l'attaque, la contre-attaque et les replis. Et ça, c'est le secret militaire, on doit laisser à l'armée faire son travail. Deux, le DDR, à l'heure qu'il est, n'est pas la solution directe. Parce que faire revenir, par exemple, les ex-Kitona dans la population, ce serait très, très dangereux. Trois, nous devons demander à la population de continuer à collaborer avec l'armée pour qu'on neutralise totalement les restes des groupes armés pour qu'on arrive à une paix durable.
Merci, merci le gouverneur. C'est la fin de cette émission. Merci à Paul Bagnanian qui était la technique, à toute l'équipe Alain Rong qui l'écoutait sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci, on se retrouve ce jeudi pour notre débat.